Bonsoir.
Bonsoir.
Moi, je m'appelle Francis Eustache, je suis neuropsychologue. Je travaille à Caen, dans une unité de recherche. Enfin, je suis professeur et donc je fais de la recherche en neuropsychologie, neuroimagerie de la mémoire humaine. Sinon, je suis en compagnie de Robert Jaffard, que je laisse se présenter.
Alors, moi, je suis neurobiologiste à la retraite, comme ça, vous devez vous en rendre compte. Mais je continue de travailler. Neurobiologiste, j'ai travaillé sur les bases neurobiologiques de la mémoire sur différents aspects, avec essentiellement une approche sur l'animal, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses sur l'animal encore qu'on ne peut pas faire chez l'homme, des interventions en particulier. Voilà, donc, et puis je suis avec Francis, qui est président de l'Observatoire, enfin du Conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires. Je suis membre de cet observatoire, enfin de cet observatoire B2V des mémoires.
Alors, donc le livre hein, dont nous allons parler, donc Mémoire et émotion, donc je le situe un petit peu dans son contexte. Vous avez vu que c'est un livre qui est écrit par plusieurs auteurs et qui est justement, disons, publié par les éditions Le Pommier, mais en lien avec cet observatoire B2V des mémoires. Alors, j'explique un petit peu ce que c'est. Donc, B2V, c'est un groupe de protection sociale. C'est des mutuelles, disons, non-profit, créées après la Deuxième Guerre mondiale, qui se sont rassemblées sous la forme d'un groupe de protection sociale. Et donc, la directrice générale de ce groupe, il y a 4-5 ans, a décidé de créer un observatoire, c'est-à-dire de réinvestir en quelque sorte les bénéfices dans une action sociale sous la forme de cet observatoire de la mémoire. Donc, il a été créé finalement il y a à peu près 3 ans et demi, et il y a trois buts, disons, trois grandes missions. Bon, favoriser tout ce qui est prévention des troubles de mémoire, tout ce qui est également soutien à la recherche, et notamment soutien aux jeunes chercheurs, sous la forme d'allocations de recherche que donc notre conseil scientifique se transforme en jury à un moment de l'année. Et donc, on sélectionne tous les ans un lauréat. En l'occurrence, cette année, c'était une lauréate qui était présente d'ailleurs au début de la semaine à Bordeaux, qui travaille au Collège de France à Paris. Donc, il y a ce soutien à la recherche qui prend aussi d'autres formes. Et puis, il y a une mission majeure qui est la transmission, la diffusion de la culture scientifique. Donc, sous des formats divers, ça peut être des conférences, ça peut être donc l'édition d'ouvrages comme ça vers le grand public. Et puis, il y a la semaine de la mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on est à Bordeaux cette semaine. Donc, la semaine de la mémoire, la première édition a eu lieu il y a 2 ans à Caen et en Normandie, en Basse-Normandie à l'époque. Donc, c'était beaucoup de manifestations qui ont été organisées lors des conférences, des ateliers, des jeux pour les plus jeunes, des expositions, etc. Vous voyez, des formats assez divers pendant une semaine. Donc, à Caen et dans sa région. Donc, on a décidé que ce serait une biennale plutôt qu'une manifestation annuelle pour des raisons diverses. Donc là, c'est la deuxième édition, donc avec aussi beaucoup de manifestations qui sont organisées depuis le début de la semaine. Bon, hier soir, il y avait un événement majeur au théâtre avec Boris Cyrulnik et Denis Péchanski, avec un échange qui était vraiment de très très haut vol. Et puis, il y a eu beaucoup beaucoup de choses. Je vais pas tout détailler, mais y compris avec des plus jeunes. Cap Science a été très très mobilisé avec une expo, puis toute une série de conférences. On a accueilli des jeunes, des lycéens tout à l'heure à la conférence d'un conférencier étranger, belge, Pierre Maquet. Donc, on accueille aussi des étrangers hein, qui viennent communiquer vers le grand public. Vous voyez, c'est une organisation quand même assez complexe. Et puis donc, cette année, on a pu faire coïncider la semaine de la mémoire avec la sortie de ce livre. Donc, Mémoire et émotion. Bon, le livre, il émane en fait d'un séminaire que l'on a entre nous, entre les membres du conseil scientifique. Et c'est le troisième livre qui est publié de cette façon. Le premier, c'était Mémoire et oubli. Le deuxième portait sur les troubles de mémoire. avec la dimension prévention et prise en charge. Et puis le troisième, donc c'est mémoire et émotion, mais ils ont tous comme format commun d'être transdisciplinaires, c'est-à-dire écrits par des scientifiques d'horizons divers, et puis avec la volonté d'en faire tout de même un livre commun, quoi, c'est pas uniquement des voix diverses qui s'expriment. Alors, les membres du conseil scientifique, il y a Hélène Amieva qui a été annoncée ce soir, mais qui en fait est partie aux AISI, puisqu'il y a une conférence au musée de la préhistoire aux AISI, et donc elle est partie accompagner le conférencier, donc elle n'est pas avec nous. Donc Hélène Amieva, vous la connaissez peut-être par son activité scientifique à Bordeaux, elle est connue, elle est professeure, et elle travaille dans le domaine de l'épidémiologie des maladies dégénératives, c'est-à-dire qu'elle suit comme ça des grandes cohortes de personnes âgées dans une unité de l'INSERM qui est très, 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 très importante, qui est pratiquement à l'origine des premières études de ce type dans le monde, avec l'étude PACWID. Vous avez peut-être entendu parler de cette étude qui a été menée, qui est toujours menée, mais qui a démarré il y a presque une trentaine d'années maintenant. Vous voyez, c'est impressionnant, en Gironde et en Dordogne. Au début, beaucoup de scientifiques étaient dubitatifs sur l'intérêt de ce genre d'approche. Et puis, en fait, maintenant, il y a énormément de publications qui sortent. Et en fait, c'est très, très important pour prédire, en quelque sorte, l'évolution de ces personnes. Alors, il y a le docteur Thomas Antérion qui était aussi avec nous, qui est neurologue à Lyon, qui a un regard plus clinique. Jean-Gabriel Ganassia, qui est spécialiste d'intelligence artificielle et puis qui est aussi philosophe, responsable du comité d'éthique du CNRS, donc Robert, que je ne présente plus. Denis Péchanski, qui a été là aussi une bonne partie de la semaine, qui était un historien de la Deuxième Guerre mondiale, très, très, très connu, avec qui je travaille, parce que nous avons aussi un programme en commun sur les suites des attentats du 13 novembre. Je pourrais vous en dire un mot si vous êtes intéressé. D'ailleurs, on l'aborde un petit peu dans le livre. Et puis Bernard Stiegler, qui est philosophe, qui a donné aussi une conférence en début de semaine. Alors voilà un peu le principe de ces livres. Et donc, c'est de plancher, en quelque sorte, les personnes dont je viens de citer les noms et présenter très rapidement. On planche pendant une journée, on est enfermé, et puis on discute entre nous. C'est plutôt bien. Hein, un moment plutôt agréable, parce qu'on coupe les téléphones. Enfin, oui, on joue le jeu, quoi. Et puis, bon, il en sort un document qui est encore un peu... Bon, qui n'est pas vraiment un livre, et puis on fait en sorte, on est aussi aidé par quelqu'un qui nous aide dans l'écriture, et puis puis les éditeurs, évidemment, puis on fait en sorte qu'il en sorte un livre. Bon, on espère qu'il soit agréable. Alors c'est un niveau, c'est grand public, mais grand public bon, qui a envie quand même un peu de s'accrocher, quoi. Il faut dire ce qui est, c'est pas un livre de gare, mais c'est pas non plus un livre universitaire, quoi. C'est quand même un livre vers le grand public, un petit peu exigeant, on pourra dire ça. Voilà la présentation très générale. Alors, le thème, maintenant, j'en viens au livre lui-même, Mémoire et émotion. Et je vais faire deux petites introductions, puis je laisserai Robert reprendre la main et vous parler un peu de son approche. Alors, la première chose, c'est l'histoire des liens entre mémoire et émotion. C'est une histoire qui n'est pas forcément simple en psychologie, en neurosciences. C'est des mondes un peu séparés. La mémoire, évidemment, l'homme a toujours réfléchi sur la mémoire. Hein. Je pense que c'est inhérent à l'humanité que de réfléchir à la mémoire. Je pense que toutes les traces qu'on a pas si loin d'ici, dans les grottes, etc., ça montre bien que les hommes réfléchissaient, les premières sépultures, etc., c'est déjà des traces de la mémoire. Bon, les philosophes ont écrit, depuis que les philosophes existent, ils ont écrit sur la mémoire, ils ont eu des conceptions de la mémoire. Mais la mesure de la mémoire, c'est quelque chose d'assez récent. L'approche vraiment scientifique. L'approche scientifique, c'est-à-dire on mesure, on arrive à des chiffres et on en fait quelque chose. C'est quelque chose de récent et on considère que l'auteur, le premier auteur, premier scientifique qui a vraiment abordé la mémoire de cette façon, c'est Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus, c'était un professeur de psychologie qui travaillait à Berlin dans la deuxième partie du 19e siècle. Vous voyez, c'est pas très, très loin. Et il a eu l'idée de mesurer la mémoire. Alors là, vous allez voir, c'est assez intéressant parce qu'on est très loin des émotions. parce qu'il a justement voulu choisir un matériel totalement dépouillé. C'était des syllabes sans signification. Oui, les syllabes sans signification, il n'y a pas vraiment d'émotion derrière. Et il voulait en plus qu'il n'y ait pas de différence interindividuelle. Donc il a trouvé une solution assez radicale. Il travaillait sur un sujet. Et il n'avait pas de mal à le trouver puisque c'était sur lui. Vous voyez, il travaillait sur un sujet avec des syllabes sans signification. Et comme ça, il a décrit des choses qui sont dans tous les manuels, hein, qui restent. Il a décrit la courbe de l'oubli, vous voyez, qui est d'abord très, très en pente comme ça, puis ensuite qui s'atténue. Il en a écrit l'équation mathématique. Vous voyez, enfin, il a fait des choses tout à fait passionnantes. Alors, pour lui, la mémoire ne se réduisait pas à ça. Hein, mais il estimait qu'à un moment donné... sans doute qu'il avait raison, il fallait être réducteur, comme on peut l'être quand on fait de la science. Et donc, c'est comme ça que la mémoire, on peut dire, est arrivée sur la scène scientifique. Et ça a duré très longtemps. Ça a duré très longtemps. Et même dans l'époque plus récente qu'on appelle l'époque de la psychologie cognitive, des années 1960, il y a un siècle après. Mais en fait, les psychologues sont restés très timorés et puis on avait une conception de la mémoire encore très réductrice. Pourtant, en parallèle, il y a eu beaucoup de travaux faits sur les émotions. Bon, les émotions, on les trouve bien évidemment dans la psychanalyse, mais la psychanalyse n'a pas vraiment développé une théorie de la mémoire, hein, même si la mémoire n'est jamais très très loin hein, des théories psychanalytiques, mais ce n'est quand même pas une vraie théorie de la mémoire. Puis elle est quand même... Elle était, aujourd'hui, c'est différent, mais elle était loin de l'approche scientifique au sens strict. Bon, il y a eu beaucoup de travaux de physiologie, hein, des émotions. Ben, ça, il y a eu une grande école, il y a l'école russe. Il y a les, bon. Mais ce n'était pas du tout lié à la mémoire. Et puis alors, il y a eu un changement assez radical, il y a à peu près une vingtaine d'années, avec ce qu'on appelait le tournant social. Ouais, c'est un peu une boutade, mais j'ai envie de dire on s'est aperçu que l'homme au sens humain était un être de relation, mais qu'il échangeait avec ses pairs et qu'il passait même son temps à ça. Et que c'était évidemment très important. Et que la mémoire, c'était pas ma mémoire à moi, non, c'était pas seulement ma mémoire, mais ma mémoire, elle était évidemment très, très dépendante des interactions avec l'autre. Et là, il a bien fallu intégrer l'émotion, parce que l'interaction avec l'autre, elle est extrêmement teintée d'émotions. Donc, vous voyez, à ce moment-là, il y a eu vraiment une irruption et des travaux donc, qu'on appelle de façon générale, qui portent sur ce qu'on appelle la cognition sociale. La cognition sociale, c'est-à-dire tout ce qui est échange relationnel, adaptation à l'autre, etc. Et y compris en pathologie. Et en pathologie, c'est aussi très important de comprendre les dysfonctionnements hein, de ces relations. Alors voilà, c'est la première ambiguïté que je voulais souligner dans l'historique, vous voyez, de cette relation mémoire-émotion qui n'est pas du tout simple. Ce n'est pas du tout linéaire. Et puis, l'autre point, et puis je donnerai la parole à Robert, c'est si on regarde maintenant l'aspect vraiment scientifique, eh bien, le lien mémoire-émotion, il n'est pas si simple. Je pense que si je vous posais la question là, vous voyez bien qu'il y a un lien entre mémoire et émotion, et puis schématiquement que l'émotion va plutôt aider la mémoire. On se dit qu'un bon prof, eh bien, il apporte un peu d'émotion, il crée quelque chose, il n'est pas d'une platitude catastrophique, sinon on se rappelle des profs qui étaient capables de créer un événement dans la classe. Bon, il ne s'agit pas de faire non plus du théâtre, mais on voit bien qu'il y a un lien plutôt positif. Alors, c'est vrai, c'est beaucoup vrai, j'ai envie de dire, si je peux m'exprimer ainsi, mais jusqu'à un certain point. Et c'est là qu'on arrive à une difficulté qui est aussi, qui fait partie intégrante du livre, hein, qui fait partie intégrante du livre et qui est malheureusement un peu d'actualité. C'est le fait qu'arrivé à un certain stade, eh bien, l'émotion va perturber la mémoire. Hein, donc vous voyez, on a cette relation comme ça qui paraît positive entre émotion et mémoire, et puis jusqu'à un certain stade. Et à ce stade-là, eh bien, en fait, l'émotion va avoir un effet au contraire délétère sur la mémoire. Je vais passer la parole à Robert parce que ce que je viens de décrire là, Alors, ce qui est intéressant, là, je le décris très simplement, sans prendre trop d'exemples, mais on prendra des exemples par la suite. Ce qui est très intéressant, c'est que la neurobiologie, vous avez bien compris que mon approche et l'approche de Robert sont pas les mêmes approches, mais on se parle, ce sont des disciplines qui se parlent. Moi, je travaille plutôt chez l'homme avec des outils de psychologie et des outils de neuroimagerie. Et puis Robert, c'est un peu caricatural ce que je dis, travaille plutôt chez l'animal avec des outils de neurobiologie. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux approches sont, en fait, s'éclairent l'une et l'autre. Enfin, je trouve que c'est un bon exemple, cet exemple du rapport mémoire et émotion, c'est un bon exemple de comment la neurobiologie peut apporter un éclairage original à une situation psychologique.
Je crois que la première chose qui est assez intéressante, c'est de noter que dès la perception d'une information, il y a quelque chose qui se passe, dans la mesure où si vous présentez un sujet des informations chargé émotionnellement, des photos par exemple qui font peur ou des choses comme ça, on se rend compte qu'il est capable de les percevoir par des présentations subliminales. Ça veut dire que la présentation de l'information est beaucoup mieux captée lorsque cette information a une charge émotionnelle. À partir de là, on peut comprendre à la limite que la mémoire d'une information chargée émotionnellement soit meilleure dans la mesure où dès la captation, qu'on appelle dans notre jargon l'encodage, la prise en compte, avant de faire de la mémoire, dès ce moment-là, il y a une supériorité, enfin les informations chargées émotionnellement sont beaucoup mieux perçues et donc vont être beaucoup plus facilement traitées. Alors après, on a parlé de deuxième aspect de la mémoire. Le deuxième aspect, c'est le phénomène qu'on appelle de consolidation. À un certain moment, cette mémoire est encore assez fragile et elle doit être consolidée. Et c'est là que les travaux de neurobiologie ont montré, ont disséqué en quelque sorte les mécanismes qui permettent cette consolidation des informations émotionnelles. Positive ou négative d'ailleurs, ça peut être, on parle de valence, ça peut être quelque chose d'agréable ou quelque chose de désagréable, et c'est mieux retenu que des informations neutres, c'est le phénomène général. Alors, moi dans le livre, je parle de moi, excusez-moi, j'ai parlé beaucoup des noyaux amygdaliens, ou les amygdales, mais pas les amygdales au fond de la gorge, Noyau amygdalien, c'est une petite structure cérébrale en amande qui se trouve juste en avant de l'hippocampe, sous le lobe temporal. Et on sait que cette structure-là, pour que les émotions aient un impact sur la mémoire et la consolidation, la prise en compte de la mémoire à un niveau qui est quelquefois, on parle de mémoire flash, c'est-à-dire quelque chose qui est chargé émotionnellement, vous le retenez mieux, eh bien, sans amygdale, ça ne marchera pas mieux. Donc c'est un lien qui est essentiel entre émotion et consolidation de la mémoire, stabilisation de la mémoire, il y a un lien essentiel entre l'amygdale et quoi ? Eh bien, toutes les structures du système nerveux qui jouent un rôle dans le stockage des informations. Et justement, pas l'amygdale. L'amygdale, ce noyau, il sert de système de modulation en projetant sur l'ensemble des structures, par exemple l'hippocampe pour une forme de mémoire qui est la mémoire déclarative, le néostriatum pour la mémoire procédurale, et ainsi de suite, peu importe. Mais dans tout le cerveau, il y a des projections. Et quand l'amygdale est activée, ça va quoi faire ? Ça va faciliter la plasticité. Vous savez que la mémoire est très dépendante de la plasticité cérébrale, plasticité synaptique si on veut pousser jusqu'au bout. Et l'amygdale va jouer un rôle très important. Comment ? Bien, les neurobiologistes, c'est eux qui l'ont fait. Après, les gens qui travaillent sur l'homme ont suivi plus ou moins. Et ils ont démontré exactement, enfin ils ont montré les mêmes choses. Les neurobiologistes ont montré que le facteur essentiel, c'était une libération de noradrénaline par l'amygdale. Alors, en premier lieu, lorsque vous percevez une information chargée émotionnellement, vous avez deux types d'hormones qui sont libérées. Vous avez l'adrénaline par la médulo-surrénale, là on n'est plus dans le cerveau, et puis vous avez ce qu'on appelle les glucocorticoïdes, qui, comme leur nom l'indique, sont libérés par le cortex des glandes surrénales. Donc, ce qui a été montré, c'est que Lorsque vous avez un éveil émotionnel relativement modéré, vous allez avoir une facilitation de la mémoire. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas trop chargé émotionnellement. Mais au fur et à mesure, ce que disait Francis, c'est qu'au fur et à mesure qu'on passe d'un éveil émotionnel carrément à un stress, les choses changent du tout au tout. Et ce qui devient, qui au départ, pour un éveil émotionnel simple, est une facilitation, peut devenir une perturbation de la mémoire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rôle modulateur de l'amygdale. Mais à ce stade-là, dans l'amygdale, si vous imaginez que dans votre cerveau, il y a des informations qui sont logées quelque part, eh bien, pour ce genre de phénomène, il n'y a pas d'informations stockées dans l'amygdale. C'est simplement un système qui est lié plus ou moins aux libérations d'hormones par les surrénales, qui déclenche la libération de noradrénaline. C'est tout, c'est ça le système modulateur, c'est une hormone centrale qui est libérée et qui va faciliter la prise en charge des informations par les structures qui sont intéressées ou qui stockent ces informations. Donc ça, c'est l'aspect modulateur de l'amygdale. Après, il y a un autre aspect dans le rôle de l'amygdale, c'est pour ça que ça fait tout un chapitre, centré là-dessus, c'est le rôle de l'amygdale dans essentiellement la peur conditionnée, c'est-à-dire le fait que une situation particulière ou un stimulus, quelque chose de particulier, de plus ponctuel, va être suivi d'un stimulus qui fait peur. Par exemple, chez les animaux, et c'est aussi utilisé chez l'homme, on prend un stimulus sonore, et aussitôt après, on envoie un choc électrique. Chez l'homme, on fait la même chose. Donc c'est un choc électrique relativement modéré. Et par la suite, l'animal, il va avoir peur de quoi ? Il va avoir peur, premièrement, du stimulus en question. Ce stimulus sonore qui était tout à fait banal devient quelque chose qui lui fait peur. Ce stimulus lui fait peur. De même que l'environnement dans lequel l'expérience a eu lieu. Et ça, c'est très important parce que vous avez deux aspects. Vous avez en premier plan, vous avez un stimulus conditionnel. Et en arrière-plan, vous avez l'environnement. Et il y a beaucoup d'explications qui sont basées sur ces deux niveaux. En particulier, le stress post-traumatique ou le syndrome de stress post-traumatique. L'idée, c'est que c'est le premier niveau, c'est-à-dire le stimulus le plus précis qui annonce l'événement traumatisant, qui va être pris en compte au détriment du contexte. Ça veut dire que cette mémoire-là du stimulus traumatisant va être, comme on dit dans notre jargon, décontextualisé. Et ça explique beaucoup de choses, en particulier le fait qu'il est extrêmement difficile de se débarrasser de la mémoire associée au syndrome de stress post-traumatique. Parce que généralement, lorsque l'on veut supprimer cette mémoire liée à ce stimulus simple qui a focalisé toute l'attention du sujet et qui lui fait peur, encore une fois, au détriment de ce qui se passait en arrière-plan, mais on a toujours besoin de rappeler ça et de rappeler que c'était dans ce contexte-là et que ce que vous avez vécu dans ce contexte-là, vous n'allez pas forcément le revivre dans un autre contexte. Or, c'est ça qui ne marche pas, selon les neurobiologistes et selon en partie aussi les neuropsychologues. Donc, je récapitule, un rôle sur la consolidation. Alors, je voulais enchaîner sur la consolidation. Bon, tu as parlé d'Ebbinghaus. Après, il y a eu des expériences sur la consolidation. Et il y a eu des expériences sur le rôle du sommeil dans la consolidation. On en a entendu parler cet après-midi, d'ailleurs, Jenkins et Dallenberg. Dernier point que je voulais, que j'ai souligné d'autres ont souligné d'ailleurs, c'est lorsqu'on passe d'un éveil émotionnel à un stress. Lorsqu'on passe d'un éveil émotionnel à un stress, ce qui se passe, c'est que, en gros, on augmente le fonctionnement du système amygdalien et on inhibe le fonctionnement de l'hippocampe. Et quand je parlais de contexte, justement, l'hippocampe joue un rôle très important dans la prise en compte du contexte. Donc au fur et à mesure que l'émotion ressentie augmente, vous avez un peu plus de libération de glucocorticoïdes, ça inhibe le fonctionnement de l'hippocampe, et c'est pour ça que l'arrière-plan est oublié par rapport au premier plan qui est pris en compte par l'amygdale. Autre phénomène lié au stress, alors cette fois un stress, enfin bon, il n'a pas besoin d'être très important, c'est le passage du penser à l'agir. Alors, je m'explique. Lorsque vous avez l'intention de vous rendre quelque part, si vous n'avez pas ou si vous connaissez pas très très bien le trajet, vous êtes obligé d'avoir une représentation mentale de ce trajet. Donc là, vous avez une pensée qui vous dirige vers un but. Mais je suppose que si vous venez souvent ici pour rentrer chez vous ce soir, vous n'avez pas besoin d'imaginer le trajet que vous allez suivre, vous allez simplement le suivre. C'est ce qu'on appelle avec la répétition un système d'automatisation. Vous passez du système penser pour faire quelque chose à faire ce quelque chose. Donc penser, agir. Bien, ce que fait le stress, c'est que c'est certainement l'évolution qui a créé ce genre de phénomène. En état de stress, vous privilégiez l'agir sur le penser. Ça veut dire que vous paraissez en quelque sorte plus pressé. Et c'est l'action qui l'emporte sur la pensée. Et là, en neurobiologie, il y a de très belles choses qui ont été faites, parce qu'on connaît parfaitement bien le déroulement des phénomènes qui nous permettent de passer d'un comportement basé sur une réflexion, enfin sur une pensée, à un fonctionnement automatique. On connaît les circuits neuronaux, et on a montré, par exemple, ça a été fait par une équipe américaine, a montré que lorsque un animal est stressé, qui passe donc en système d'automatisation dans des tests, eh bien, ça se traduit par une hypotrophie de certaines parties. Enfin, hypotrophie, tout est relatif, hein, ça se réduit pas trop, mais c'est mesurable au niveau du cortex frontal qui, lui, préside à cette pensée, enfin, qui permet cette pensée pour agir. Et donc, il y a un shift, un basculement sur le système automatique.
Voilà, moi, je peux reprendre sur cette distinction entre l'effet positif de l'émotion sur la mémoire et puis cet effet négatif quand une personne, hein, donc là, on quitte les rongeurs, hein, mais quand une personne, quand un individu est en présence d'un événement traumatique, on rentre dans le domaine des mémoires traumatiques, et la pathologie donc, qui est décrite dans ce livre, enfin, il y a plusieurs chapitres qui traitent ce point-là sous des angles divers, c'est ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique, qui est une distorsion de la mémoire, hein, qui comprend en tout cas une distorsion de la mémoire avec des éléments décontextualisés, comme tu l'as dit, un élément de l'événement qui revient en quelque sorte en boucle à la conscience de la personne qui a été victime. Donc sous la forme de pensée, sous la forme d'image qu'on appelle intrusive, sous la forme d'intrusion. Et ces images intrusives, elles ont une particularité si on les compare à un souvenir. Quand on se souvient de quelque chose, on a aussi des images qui nous reviennent. Un souvenir, il est caractérisé par des images. Mais on sait que ces images appartiennent à un événement du passé. C'est même là, ce serait presque une définition.
Et on sait le contrôler aussi.
Voilà. Et on sait le contrôler, tout à fait. C'est même la caractéristique d'un souvenir. On le fait revenir, bon, il disparaît, on le met en relation avec un autre souvenir. On a ces images. Bon, on trouve un certain plaisir à se retrouver dans la scène. D'accord, on a, vous voyez, on a ce lien. La mémoire, c'est aussi ça. Hein, c'est pas simplement des images en dehors de nous. On se retrouve dans la scène, mais on sait que c'est une scène qui a été vécue, hein, qui appartient à notre passé. Dans l'état de stress post-traumatique, c'est l'image qui s'impose au sujet. Vous voyez, c'est la grande différence. Elle s'impose au présent. Si bien qu'en fait, on est dans une sorte de cercle vicieux où l'événement et le sujet a l'impression de revivre en permanence cet événement et en quelque sorte terrorisé par cet événement. Donc, vous voyez que le lien mémoire-émotion, il n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire, vous voyez, à prime abord, comme ça. Alors, pour illustrer ce point-là, je peux vous parler d'un programme de recherche qui est en cours actuellement. Je vous invite à aller regarder, si vous êtes intéressé plus en détail, sur le site qui s'appelle Mémoire 13 novembre, Vous avez peut-être entendu parler d'ailleurs de ce programme qui est très très soutenu par les grands organismes de recherche, notamment le CNRS et l'INSERM, et qui a démarré, comme son nom l'indique, après les attentats du 13 novembre qui ont eu lieu à Paris donc à cette date. Bon, qui utilise des méthodologies, c'est pour ça que j'ai ma langue à fourcher, qui avait été développée auparavant, en lien avec Denis Péchanski, que j'ai cité tout à l'heure. Lui, il est historien. Moi, je suis neuropsychologue, mais on travaille ensemble depuis plusieurs années sur la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. On travaille à Caen, dans le musée mémorial de Caen, où il y a un certain nombre d'installations qui ont été développées ici. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre les liens entre la mémoire individuelle et la mémoire collective en partant de cet événement qu'est la Deuxième Guerre mondiale, ce grand événement historique qu'est la Deuxième Guerre mondiale. Et puis le deuxième exemple qui nous a permis d'avancer ensemble, ça a été le 11 septembre, cette fois-ci aux États-Unis et notamment à New York, où on a pu travailler avec un psychologue américain qui s'appelle William Hurst, qui, après la tragédie du 11 septembre, avait envoyé des questionnaires papier, avait envoyé largement plusieurs milliers de questionnaires, soit par e-mail, soit par courrier papier, et a recueilli ces questionnaires juste après le 11 septembre, dans le mois qui a suivi, et puis 2 ans après, 3 ans après, 5 ans après, 10 ans après. Et il a étudié comme ça l'évolution des souvenirs de la personne. Alors, c'est pas le contenu qui est intéressant là, c'est vraiment la façon dont la personne se souvient, la dynamique, vous voyez, la construction de la mémoire, à partir d'un événement plus ou moins traumatique, dans le sens où l'événement est traumatique pour les personnes qui étaient présentes. Et puis après, évidemment, les personnes qui sont plus distantes, c'est évidemment un événement majeur, mais ce n'est pas un événement traumatique au sens où je l'ai défini tout à l'heure, dans le sens où ça ne remet pas en cause l'intégrité de la personne qui vit l'événement, mais en le voyant, par exemple, par le truchement de la télévision. Vous voyez bien que c'est complètement différent. Alors, en fait, les méthodologies qu'on avait développées avec mon collègue et puis avec tous nos collaborateurs, en fait, on les a mises à l'épreuve cette fois-ci, mais à partir d'un nouvel événement traumatique qui est le 13 novembre, mais cette fois-ci de façon proactive. C'est-à-dire qu'en partant de cet événement et puis en développant un certain nombre de travaux de recherche, alors avec d'une part des entretiens filmés des personnes. Donc il y a une étude qui s'appelle l'étude 1000 qui vise à enregistrer des interviews filmées des personnes qui étaient présentes au Bataclan, qui étaient présentes aux terrasses des cafés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cercle 1. C'était les personnes qui étaient les plus proches de l'événement traumatique. Et puis il y a comme ça plusieurs cercles qui s'écartent de l'événement traumatique, ce qui va nous permettre de voir la construction de ces mémoires traumatiques, donc de façon d'abord transversale, donc avec des personnes qui sont plus ou moins distantes de l'événement, et puis également de façon longitudinale, parce que nous reverrons ces personnes 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après. Donc voilà une illustration de cette étude des liens entre mémoire et émotion, avec l'idée que ce lien mémoire et émotion, c'est pas simplement un lien qui va affecter la mémoire individuelle, mais il va également affecter la mémoire collective de toute une société.
L'autre matin, avec Denis, je lui ai raconté un truc qui allait eu l'air de lui plaire, Denis Péchanski. C'est le phénomène qu'on appelle résignation acquise, qui a été très étudié chez les animaux. La résignation acquise, c'est un stress qui n'est ni contrôlable ni prévisible. C'est-à-dire que vous avez, à un certain moment, vous allez recevoir un choc traumatique, mais vous n'avez pas pu le prévoir, il n'y a pas eu un stimulus qui l'a annoncé, et surtout, vous ne pouvez pas le contrôler. Et ça a des conséquences absolument catastrophiques sur le fonctionnement cérébral. Et c'est de vieilles expériences qui ont montré qu'un animal qui recevait des chocs électriques, mais qui avait la possibilité d'appuyer sur un levier pour couper le choc, par rapport à un animal qui était dans une autre cage à côté, qui recevait la même quantité d'électricité parce que c'était couplé, mais qui lui ne contrôlait pas, eh bien la différence est absolument incroyable entre celui qui contrôle et celui qui ne peut pas contrôler, alors que les deux reçoivent la même quantité d'électricité. Par exemple, la plasticité de l'hippocampe est complètement anéantie quand il n'y a pas possibilité de contrôle, alors qu'elle est préservée quand il y a possibilité de contrôle. Et c'est vrai aussi pour la prédictibilité. Et lorsque vous avez ce type de phénomène qui se répète, cette, on l'appelle résignation acquise. Pourquoi ? Parce que à partir de là, l'animal, et chez l'homme je pense que c'est la même chose, a des difficultés à considérer qu'il peut maîtriser une situation, donc apprendre à maîtriser une situation, puisque son expérience lui a montré, celui qui ne pouvait pas contrôler, que c'était incontrôlable. Donc, il est résigné et il n'apprend pas. Donc, ça, c'est une des conséquences.
Oui, tu ne m'avais pas évoqué ce point-là. Je trouve que c'est vraiment très intéressant.
C'est très intéressant, oui.
C'est très intéressant.
Comme ça a plu à Denis, je me permets de vous le dire.
C'est la volonté absolument de conserver un contrôle.
C'est la pire des choses. Je pense qu'on est, on est fait pour chercher des relations de cause à effet dans notre environnement. Quand on a l'effet sans avoir la cause, c'est catastrophique.
En vous remerciant beaucoup.